Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h, Philippe David, Laurence Perrault.
Et je vous rappelle le sondage qui court actuellement sur nos réseaux sociaux, soit la page Facebook de Sud Radio, soit sudradio.freux.
Pourquoi vous faites ces yeux-là?
Parce que ce sont les miens.
Non, non, mais parce que vous louchez.
C'est parce que j'avais tout dans ma tête en même temps et que je vous regardais. Je me suis dit, François, si je fais le sondage et que je la regarde, elle va dire, mais qu'est-ce qu'elle veut me dire?
Mais ben quoi?
Et donc, sur Twitter, vous qui suivez, merci amis auditeurs, sur Twitter, @sudradio, la question, c'est après 11 ans de Guillaume Pépi, trouvez-vous que la SNCF fonctionne mieux qu'avant? Vous nous rejoignez. Et puis tout de suite, eh bien, pour notre petit déjeuner de l'actualité, Philippe, nous recevons Françoise Degoye, que vous avez bien entendu, et Philippe Bigère, bonjour tous les deux.
Bonjour à tous les deux sociétaires, je reprends le mot des vraies voix.
J'aime cette expression, sociétaire des vraies voix, c'est
ça,
chic.
Ça a de l'allure.
Ça pose, académie.
Ça pose. Ouais.
Ça vous voulez parler d'Emmanuel Macron dans Valeurs Actuelles, à Rouen, etc. Comment, honneur aux dames, tu as commencé François.
Rien, je suis assez frappée, en deux minutes, je suis assez frappée donc, de voir cette interview qui a le mérite de la clarté, vraiment. Alors voilà, elle a été réalisée au retour de la Réunion, c'est quelque chose de assez réussi pour nos amis de Valeurs Actuelles, et ça on peut féliciter une rédaction parce que c'est la première fois, même si c'est évidemment pas ma tasse de thé politiquement, mais c'est la première fois en fait qu'Emmanuel Macron se pose véritablement et s'explique en longueur sur le sujet d'actualité. Mais on a reparlé, Philippe détaillera ce qu'il a frappé dans cette interview, j'imagine. Moi ce qui me frappe, c'est la percussion, si vous voulez, entre cette interview, qui est un vrai événement politique, hein, vraiment, parce que il y a des choses dedans, voilà, et puis surtout d'où parle-t-elle? Elle parle d'un support qui n'est pas vraiment amical avec Macron, et la percussion de cette interview et des images d'hier de Rouen où on voit un président qui est chahuté, plus que ça d'ailleurs, qui est pris à partie de façon extrêmement sévère, on voit un front social qui ne s'arrête pas, on voit qui n'est pas prêt de s'arrêter d'ailleurs, je pense pas simplement à la SNCF, je pense aux urgences. Et mon sentiment est qu'il y a un problème probablement de priorité. Et c'est vrai qu'on dit toujours que les sujets de laïcité et immigration, d'ailleurs ça me gêne beaucoup dans l'interview de Macron, que tout soit mélangé, immigration, communautarisme, on ne sait même plus de quoi on parle à la fin, et sont préoccupants, mais ce n'est pas les priorités des Français. Et la priorité, de mon point de vue, et de toutes les enquêtes nous le montrent, c'est quand même le social. Et il y avait cette image incroyable hier d'un Macron complètement bousculé, sortant sur le terrain, et d'un Macron sur papier glacé avec le sentiment qu'il y a quand même encore une coupure avec le réel et avec les vraies priorités des Français. Je pense que les Français se foutent en grande partie des problèmes de voile. D'abord, ça leur casse la tête dans le sens premier du terme, et la question du voile est une question très importante, mais quand même je pense que la priorité c'est le social. Voilà.
Philippe Bilger. Alors j'allais dire je ne crois pas, mais je le dis avec beaucoup de prudence. Je vous rejoins Françoise sur le point de savoir, même si je n'ai pas lu encore tout l'entretien, j'en ai lu des extraits signifiants, et j'apprécie que vous indiquer à quel point il est important de l'avoir donné à un magazine pour le moins conservateur. Premier point. Je suis tout de même frappé par la... Certes, on pourrait penser que d'autres présidents ont été victimes de formes un petit peu de violence ou d'intimidation. Je suis tout de même frappé par le fait que Emmanuel Macron est en permanence confronté à une alternative, ou bien positive d'inconditionnalité de la part de certaines de ses troupes, ou bien d'une violence, comme si à aucun moment le français, le citoyen français, ne parvenait à instaurer un rapport juste et équilibré avec lui. J'ai tout de même été très choqué par ces images qui me semblent très particulières et d'autant plus au sens propre pitoyable que nous avons un président qui cherche vraiment à maintenir et à instaurer le contact. Et troisième élément, sur le plan social, j'ai l'impression que nous ne sommes plus face à une fronde sociale classique et qu'au fond, il y a des catégories, des mouvements catégoriels qui semblent en quelque sorte s'enivrer de leur contestation elle-même.
Je pense que, alors, c'est là qu'on se... pourra se rejoindre sur moi. Bon, je ne crois pas du tout au grand soir, je ne crois pas à la convergence. Par contre, je pense au caractère abrasif et inflammable de toutes ces revendications qui sont vraiment, on peut les entendre, elles sont vraiment légitimes. Je ne suis pas sûr, c'est là qu'on n'est pas d'accord, mon cher Philippe, sur le fait qu'elles s'enivrent d'elles-mêmes. Sur Emmanuel Macron, vous voyez, il me semble qu'il génère ça. Je ne dis pas du tout qu'il génère, je ne dis pas du tout que c'est sa faute, mais il y a quelque chose qu'il ne sait toujours pas faire. Il y a beaucoup de présidents qui se sont promenés parmi les Français, qui aiment avoir autant le contact que lui, un contact naturel. Je pense à Hollande, mais je pense à Chirac, si on prend Chirac. Emmanuel Macron partage avec Nicolas Sarkozy cette capacité à se faire détester des gens, mais lui plus encore.
Mais je voulais vous poser une question par rapport à Rouen. Est-ce qu'il n'a pas fait de l'anti-Sarkozy en disant un président de la République n'est pas là pour aller où il se passe quelque chose immédiatement, alors que dès qu'il se passait quelque chose, Sarkozy était là mais dans les deux heures qui suivaient.
Il a attendu longtemps
pour aller à Rouen.
Oui, ben, parce que c'était plus compliqué, mais il fait exactement pareil. Enfin, Emmanuel Macron saute à peu près sur tout ce qui bouge en termes de communication. Et c'est normal parce qu'on ne peut plus présider que comme ça, sinon on est complètement largué. Pour l'avoir oublié et avoir refusé de le faire, regardez ce qui est arrivé à François Hollande, jamais là, toujours en retard, alors que pas en retard. Donc François Hollande a toujours détesté l'idée d'envoyer une carte postale par jour. Emmanuel Macron ne fait que ça. De mon point de vue, je crois qu'il y a quand même aussi quelque chose dans l'attitude d'Emmanuel. Je vois bien le dialogue. Philippe, vous avez vu cette femme qui l'interpelle assez rudement, bien sûr, mais lui n'arrive pas à se détendre, c'est-à-dire il n'arrive pas à avoir un mot. Il me fait penser à la... vous allez voir, comparaison n'est pas raison, à Lionel Jospin pendant la campagne présidentielle devant les salariés de l'U, vous vous souvenez cette image, qui lui exprime leur désarroi, etc. Et lui est face à eux, désagréable en réalité, sur le mode, en gros, on parle pas comme ça à un Premier ministre, et puis bon, voilà. Et là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
Je me demande, Françoise, tout de même, pour Lubrizol, et un petit peu la question de Philippe est pertinente dans la mesure où il a manifestement cherché à laisser s'apaiser un peu les choses et il est venu quelque temps après. Mais ce qui me frappe, et là votre expérience pourra peut-être le confirmer, lorsqu'un président, à un moment donné, a eu des comportements discutables que pourtant moi-même j'ai soutenus parce que je considérais que ces saillies provocatrice était stimulante, malheureusement elle concernait toute une critique des Français. Là, il ne parvient plus à rattraper ce qu'il a perdu. Et donc on continue à le juger, notamment hier, les gens le jugent sur ce qu'il a dit, alors qu'il a changé. Il a changé, peut-être pas de manière suffisamment signifiante, mais il a tiré pour une fois les leçons, peut-être par des biais tout à fait sentimentaux, d'erreurs qu'il avait commises, et pourtant on continue à le juger comme s'il était celui-là.
Vous savez, en communication, c'est ce qu'on appelle les effets cliqués. C'est-à-dire que dans la politique, il y a des effets cliqués, des effets sur lesquels on ne peut jamais revenir. Et c'est assez injuste d'ailleurs pour les hommes et les femmes politiques, c'est même franchement odieux. C'est-à-dire que sur une phrase, tout bascule et ne se rattrape pas en réalité, ne peut pas se rattraper. Et votre analyse est très juste sur le fait que, au fond, il y a quelque chose qui est installé, qui ne peut pas se réparer sur la personnalité, en tout cas d'Emmanuel Macron. Voilà, je pense qu'il en accepte l'augure. Après, Emmanuel Macron, c'est pas sentimental. Lui, non. Il regarde les comptes, il se dit, voilà, si j'ai que ça et que je rejoue moi ou le chaos face à Marine Le Pen, eh bien, pas de problème, suis réélu. C'est comme ça qu'il raisonne. Mais je pense que c'est un raisonnement extrêmement, d'abord, cynique et extrêmement dangereux.
C'est moi ou le chaos qui
dit
dans
Valeurs Actuelles. Oui, mais il le dit, ça aussi, dans Valeurs Actuelles.
Ça pourrait se réparer à la rigueur si on intervenait tout de suite, si la repentance du président venait immédiatement, ce qui n'était pas le cas. Deuxième élément, Françoise, j'élargis un petit peu le sujet, si j'ose dire. Récemment, j'ai participé ici à un débat avec une députée de La République En Marche, initialement du Modem, qui a développé une idée qui m'a semblé juste pour expliquer, malgré, encore une fois, l'apparente adhésion à Emmanuel Macron peut-être pas d'une majorité, d'une part importante, par le fait, et ça paraît impensif, mais moi-même, malheureusement, je n'y avais pas pensé, le fait qu'il n'y a plus d'opposition.
Je dirais donc qu'en quelque sorte, la contestation se situe au niveau interne du peuple.
Oui.
Et donc, ça explique un niveau de détestation que...
Je suis assez d'accord avec vous. C'est vrai. Comment ça, on nous coupe le sifflet en étonnant
on va vous redonner.
C'est de la censure, ça s'appelle.
C'est d'une...
Alors, si tout le monde était censuré comme ça...
Mesdames, messieurs les censeurs, bonsoir.
Ça rappelle une émission de télé, il y a une 45-50 ans.
Vous avez eu des gestes tout de même très amicaux.
On nous a fait ça.
Non, c'est pas vrai.
Si vous regardez la vidéo, coupez,
c'est pas vrai.
Taisez-vous.
Je vous demande de vous arrêter.
Merci. Et puis surtout, on vous retrouve avec notre plus grand bonheur, Françoise de Goix et Philippe Bilger, dans quelques instants. Juste après le rappel de la météo et de l'info, vous restez en notre compagnie. Vous êtes sur Sud Radio et vous y êtes bien. Et la question que l'on vous pose ce matin, je vous le rappelle, sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur la page Facebook de Sud Radio, sur sudradio.fr ou par Twitter, @sudradio, est la suivante. Après 11 ans de Guillaume Pépi, trouvez-vous que la SNCF fonctionne mieux qu'avant? Vous y répondez pour l'instant à 96% de non sur la page Facebook. Et nous en parlerons, Philippe, avec notre enquête à 9h18. Nous recevrons Bérangère Cernon, qui est secrétaire générale de la CGT Cheminots de Paris, gare de Lyon. Mais à 9h03, on retrouve nos polémistes et nos éditeurs.
On n'est pas très polémiste.
Non, vous êtes plutôt ça. Ouais.
Oui, on est
tranquille.
Sage, écoutez, c'est
mais déjà, c'est le bonheur d'écouter l'autre.
Mais
justement, on nous écoute, y compris sur la Côte d'Azur. On a Christian qui nous appelle de Nice.
Alors, juste pour nos amis qui arrivent sur Sud Radio, Françoise de Goix et Philippe Bilger sont nos éditeurs ce matin.
Mais ils sont tellement connus.
Si on n'était pas présentés, ce serait dramatique.
Bien sûr.
Direction Nice nous appelle Christian. Bonjour, Christian.
Bonjour monsieur.
Bienvenue sur Sud Radio.
Merci beaucoup. Alors, je voudrais vous lire le communiqué de la Fédération protestante de France, qui date du 18 octobre 2019, qui communique donc sur la situation préoccupante des chrétiens en Algérie. La Fédération protestante de France, FPF, veut exprimer sa vive préoccupation dans la situation qui est faite aux chrétiens d'Algérie. De nombreux témoignages, dont une lettre rendue publique du président de l'église protestante d'Algérie, rapportent que des églises sont fermées par les autorités et que des membres responsables et pasteurs sont inquiétés, voire arrêtés. La liberté de culte est un bien trop précieux pour que quiconque ne se sente pas concerné lorsqu'elle est mise à mal, où que ce soit dans le monde. Aujourd'hui, c'est le christianisme en Algérie qui est malmené. La FPF, Fédération protestante de France, s'inquiète de cette situation et souhaite qu'elle y soit mise fin au nom de la démocratie et des droits de l'homme. Rappelons que l'Algérie est laïque. Hein.
Alors Christian, justement, on a compris la teneur de votre appel. On va faire réagir nos débatteurs. Oui. Philippe Bilger, quand on voit la fermeture massive des églises, qu'elles soient catholiques ou protestantes en Algérie, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Eh bien, je ne connaissais pas ce communiqué. Je suis, évidemment, je le dénonce, je suis indigné. Que j'ai une culture chrétienne ou non n'est pas le problème. J'ignorais ce qui se passait là-bas.
Et moi, je n'ignorais pas. C'est un pays sur lequel je garde toujours un œil. Vous parlez de ce qui se passe en Kabylie, en fait. Hein. Il faut bien comprendre que c'est plutôt concentré sur la Kabylie, hein, Christian. Si j'en crois... Il est parti, Christian ?
Non,
1200
voilà.
Chrétiens algériens privés de leur église à
Tizi Ouzou. Bien sûr, c'est la Kabylie, vous savez que c'est la capitale de la Kabylie, de la grande Kabylie d'ailleurs, et le siège, ça je le dis pour notre ami Philippe David, de la grandiose et mythique équipe de la JSK. Je dis ça, je ferme le banc. La JSK...
Jeunesse sportive kabyle.
Grand club de foot qui a permis d'ailleurs à la Kabylie de résister au pouvoir central algérien. Mais vous parlez vraiment de cela, de ce qui se passe en Kabylie. Oui, bien sûr, alors on est dans on est aussi dans quelque chose qui concerne toujours la Kabylie par rapport au pouvoir central algérien. Il y a tout le temps un problème. Et là, alors, j'entends bien ce que donnent comme prétexte les autorités algériennes. J'ai vu passer un papier, une dépêche sur la question en disant qu'en fait, il ne s'agit pas de vrais lieux de culte, etc., etc. Tout ça, c'est de la mauvaise foi. Mais je suis assez d'accord avec vous. Et Philippe Bilger a raison. Il ça n'était pas venu à son oreille, pourtant il a l'oreille attentive. Ça veut dire qu'on n'en parle pas assez, en fait. C'est ça la réalité du sujet. C'est vrai qu'on parle beaucoup des Kurdes. Et je suis comme vous, je crois qu'on ne peut pas faire de gradation dans le malheur de la terre.
Et on parle d'autres choses sur l'Algérie, le caractère politique,
bien sûr.
Forme de...
Bien sûr.
Mais là, je l'ignorais.
Merci beaucoup, Christian de Nice. Ouais. Je voudrais vous faire réagir sur la balise, absolument, balise IFOP fiduciale pour Sud Radio qui est tombée ce matin. Il n'y a que deux catégories que les sondés, pour qui les sondés pensent que la politique d'Emmanuel Macron a des vertus positives. Les dirigeants d'entreprises pour 71% et les habitants des grandes villes et métropoles. Françoise Degois, vous auriez répondu la même chose ? Alors que les perdants, les plus grands perdants, c'est les retraités pour 87% des sondés, devant, juste derrière, pardon, les habitants des communes rurales, 81%.
Allez-y, finis. Je l'aurais dit, je l'aurais parié, c'est tellement évident, la France qui se dessine, elle est de plus en plus fracturée. La France qui va bien, hein, la France des villes, des grandes villes, des métropoles, la France un peu des TGV d'une certaine manière, la France des bobos, que nous sommes tous plus ou moins, bobos de gauche, bobos de droite, mais enfin bon, cette France qui va bien, et puis voilà, la France qui va mal.
C'est très perturbant, parce que je sais que c'est un procès qu'on a souvent fait à Emmanuel Macron, d'avoir une politique, au fond, en faveur d'une part de la population, et qui lève et offense l'autre, et quand j'entends un sondage dont la pertinence n'est pas suspecte, eh bien, je me dis, c'est terrible de voir que peut-être ce clivage, cette hémiplégie sont réels.
Ouais, en tout cas, qu'ils se creusent, ouais, c'est ça.
En tout cas, les Français le sentent comme et c'est très préoccupant.
Oui, je suis...
Alors qu'il invoque en permanence l'exigence de rassemblement, que je crois il est sincère dans cette affirmation, mais que la réalité de sa politique peut-être dément cela.
Ouais, alors ça, vous ne serez pas aussi sévère que moi, parce que c'est pas, vous êtes moins sévère que moi sur la question. Moi, je crois que c'est vraiment lié absolument. La vie, tout est politique. Tout est choix politique. Tout est orientation budgétaire. Quand vous décidez de flécher cet endroit, vous ne fléchez pas cet autre endroit. Donc, il est évident que la flat tax, par exemple, dont personne ne parle, c'est probablement une des choses qui a le plus enrichi.
La taxe à 30%, on paye cotisations sociales et impôts 30% quand on distribue des dividendes.
C'est tout.
Par exemple, quelqu'un qui prend 100 000 euros de dividendes, il paye 30 000 euros d'impôts et de charges sociales, il lui reste 70 000 euros net.
Ça ne dépassera jamais. Donc ça veut dire qu'on est dans une logique, si vous voulez, de presque de bouclier fiscal, mais pour les taxes mobilières.
C'est beaucoup plus fort que le bouclier fiscal.
Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que le bouclier fiscal, puissance 10, c'est-à-dire, et c'est ce qui explique pourquoi les actionnaires ne sont jamais autant enrichis dans notre pays. Donc c'est ça le problème. Vous dites, parce que vous voulez laisser du crédit à Emmanuel Macron. Je vous laisse le crédit, Philippe Bilger, que vous êtes tout le temps avec une forme, dans le bon sens du terme, de bienveillance, après tout. Essayons de voir ce que ce jeune président peut faire. Moi, je n'ai pas votre bienveillance, votre patience.
Mais Françoise, en même temps, à partir du moment où mon immaturité politique sur le plan de l'absence d'adhésion à une chapelle précise fait que je suis passionné par la psychologie des personnages, eh bien, il y a chez lui, et ça, c'est la traduction du sondage, j'allais dire une forme de mondanité démocratique. C'est-à-dire que naturellement, son tempérament, sa culture, le conduisent vers une part de la France qui, malheureusement, s'oppose à l'autre, alors que, profondément, il devrait accepter la plénitude concrète du en même temps.
Je suis d'accord avec vous, mais je pense, alors là, je vais être à la décharge d'Emmanuel Macron, je pense que gouverner est extraordinairement difficile. Je crois que... voilà, il y a beaucoup de choses que je crois qu'il ne sait pas faire. On pense toujours, parce qu'il donne toujours une attitude assez assurée, je sais tout. Il y a un côté monsieur je sais tout permanent. En réalité, je pense qu'au fond de lui, c'est pas ça. Je crois que c'est quelqu'un qui a ses accès de panique et qui parfois se dit par quel bout je vais prendre ce truc-là. Ouais. On le voit, un petit peu de laïcité entre deux portes, un petit peu d'immigration entre deux portes. C'est pas de la tactique de communication. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose parfois qui est désemparé chez ce président.
Notamment, voilà. Peut-être, paradoxalement, l'absence d'opposition politique véritable. Parce que ça crée des haines et des hostilités populaires, entre guillemets, qui me semblent très préoccupantes.
Mais le problème, c'est que vous savez, il y a un institut de sondage hier qui a sorti un sondage qui n'est pas IFOP, mais qui a sorti un sondage accablant pour Emmanuel Macron. Aujourd'hui, 60% des Français interrogés considèrent que ça a été une erreur de l'élire. C'est-à-dire qu'on fait comme si Emmanuel Macron... tout le monde se raconte la légende urbaine que Emmanuel Macron est populaire, relayé, habillée par des tas. Je parle pas du tout de vous, du le
ils
matin au soir.
Ils vont dans la conquête du pauvre.
Oui, du matin au soir, les éditorialistes, il est merveilleux. Mais c'est pas vrai. C'est pas les gens, les Français. Il est très impopulaire. Et il faut le rappeler. Les Français sont déçus parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient quand même beaucoup de choses de ce jeune président. Et en plus de ça, il est comment dirais-je, il n'est pas aimé. Donc il y a pas d'adhésion à Emmanuel Macron. Encore une fois, il y a l'adhésion de la France qui va bien, 15 à 20% des gens, mais le malentendu, il est total.
Est-ce que Françoise, il est total. Là-dessus, j'aimerais votre avis. Je suis frappé depuis longtemps par le fait que quand on regarde la surface politique démocratique du pays, on pourrait penser à une forme de normalité, au fond. Il ne se débrouille pas trop mal, mais derrière, je sens une haine, une hostilité sourde qui est parallèle à cette espèce d'adhésion à une normalité.
Ouais, mais c'est vraiment lié. Moi, je pense, Philippe, c'est vraiment lié. C'est vraiment comme avec Nicolas Sarkozy. C'est vraiment lié à son tempérament. Je crois véritablement que, par exemple, Giscard, qui est un centriste, c'est le Macron d'il y a 30 ans. On est d'accord, Valéry Giscard d'Estaing.
Plutôt 45.
Hein. Oui, 45 ans, pardon. C'est vrai que même moi, je refuse de voir le temps qui passe. Alors, c'est vrai que vous avez raison. Honte à moi, vous avez vu cet acte manqué, oui, 45 ans. Eh bien, Giscard provoquait pas cette haine, hein, pas du tout.
On était pas à certains moments, mais pas de, c'est pas comparable.
Il y a quelque chose qui est abîmé dans sa relation aux autres, mais c'est vraiment sa psyché. Mais après, moi, je suis pas en guerre contre Emmanuel Macron, je suis en guerre contre sa politique.
Et au fond, on pourrait dire d'Emmanuel Macron ce que De Gaulle disait de Giscard, son problème sera toujours le peuple.
Ah, c'est intéressant, oui, c'est vrai, il est fort, c'est bien.
Oui. Je voudrais vous faire
réagir. Je ne me souviens plus de cette phrase. Où est-ce qu'il a été la chercher, celui-là?
Je ne sais plus, mais c'est une très bonne citation.
Très bonne
chiffre du sondage: seuls 37% des sondés pensent que les jeunes âgés de 18 à 24 ans sont plutôt gagnants, contre 63% plutôt perdants. Alors qu'on se souvient, pendant la campagne présidentielle, Macron avait montré qu'il aimait les jeunes, il jouait au foot avec eux dans les quartiers, etc.
Ah, oui, mais je n'oubliez pas que l'électorat de 18 à 25 ans a voté pour qui massivement? Pour Jean-Luc Mélenchon, qui était devenu le vieux, qui était devenu l'idole des jeunes. Donc là encore, il n'y a pas. C'est de quel jeune on parle? On parle des jeunes diplômés, etc. Bon, voilà.
Philippe Bilger.
Et le Mélenchon, ça a été un tour de force de devenir l'idole des jeunes, alors qu'il avait été un politicien parfaitement classique avant.
Absolument d'accord.
Un tour de force.
Incroyable. Hein.
Mais qui est en train de se déliter. Hein,
je suis d'accord. Il se tient encore bien dans les les sondages présidentiels, mais il perd des points, il perd des plumes.
Les voix de l'idole des jeunes, mais il n'a pas eu la voix de l'idole des jeunes.
Excellente.
C'est gentil de me reconnaître. Juste une chose, vous parliez d'il y a 45 ans, mais il y a 45 ans, les gens n'avaient pas les mêmes façons et les mêmes moyens de s'exprimer comme ils l'ont aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est vraiment comparable?
Sûrement. Non, mais c'est comparable.
Vous avez raison de vous permettre, mais moi, je crois que la politique est éternelle et que de tout temps, quand on avait envie de manifester contre le tyran, que ce soit à Rome ou dans la Grèce antique, contre le César, parce qu'on manifestait aussi, on l'assassinait, même pas simplement Jules César, eh bien, on manifestait. Donc, je pense que quand le peuple a toujours trouvé son chemin pour indiquer à un de ses dirigeants qu'il est contre sa politique. Donc, je crois pas que ça accentue un petit peu, mais Giscard, il y a 45 ans, s'il avait, provoqué autant d'hostilité, les gens seraient descendus en masse dans la rue pour le faire, réseaux sociaux ou pas.
Donc, mai 68, ça a été la contestation contre De Gaulle, parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux.
Exactement. Voilà, il n'y en avait pas, et c'était très bien.
Absolument.
Merci beaucoup, merci Françoise Degois et Philippe Bilger, d'avoir été à nos côtés ce matin.
C'était un plaisir.
Matin.
C'est déjà terminé.
Partagé, oui, mais vous pouvez revenir. Très bien.
Il y en a d'autres avec lesquels c'est toujours trop long.
Et on ne parlera pas de mon... compagnon. Allez, une autre chanson dans quelques instants, puisqu'on aura le bonheur d'accueillir Pablo Chéret-Urdrade, qui est artiste-interprète, qui joue actuellement les personnages principaux dans les comédies musicales Tom Sawyer et Pinocchio. Et juste avant, puisque l'on vous pose cette question sur nos réseaux sociaux, après 11 ans de Guillaume Pépi, trouvez-vous que la SNCF fonctionne mieux qu'avant? Vous réagissez, vous continuez de voter sur Twitter, sur la page Facebook de Sud Radio et sur évidemment notre site internet. Nous allons en parler avec Béranger Cernon, qui est le secrétaire général de la CGT Cheminots de Paris, Gare de Lyon. À tout de suite.